Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'horizon du mardi 17 novembre 2015. Veuillez noter que le Tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir, pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, j'attirerai votre attention sur un sujet qui est, vous l'aurez deviné, on va parler des effets collatéraux des attentats de vendredi dernier, mais on va le traiter sous trois volets. Premièrement, le dilemme entre la répression et la liberté. Ensuite, la valorisation du patrimoine et le rôle des parents auprès de leurs enfants dans cette crise. Dans un premier temps, j'aimerais ouvrir justement ce tour d'horizon par le dilemme entre la répression et la liberté. Et je m'inspire d'un article qui a été publié hier sur la plateforme du Figaro. Donc, c'est lefigaro.fr/actualité-France. Donc, le titre s'intitule comme suit « Comment dissoudre les mosquées radicales ». Alors, qu'est-ce que le Figaro nous dit? Les critères législatifs qui permettent de déchoir une association considérée comme dangereuse sont restreints. C'est ce qu'affirme le Figaro. Et parce que dissoudre des mosquées dangereuses, ce n'est pas nécessairement facile parce que législativement parlant, et oui, je l'ai eu, mesdames et messieurs, législativement parlant, eh bien, on touche justement à la question de liberté, liberté d'expression, liberté de religion. Mais qu'est-ce que l'article ajoute? Voici ce qu'on nous dit. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'a promis dimanche soir sur France 2 et l'a officiellement confirmé lundi matin. Depuis plusieurs mois, a-t-il assuré, les services du ministère de l'Intérieur rassemblent les éléments nécessaires à la dissolution d'associations cultuelles occupant des lieux de culte radicalisés et faisant l'apologie de la violence. Ces procédures sont d'ores et déjà en cours et feront à leur terme l'objet d'un examen par le Conseil des ministres. Il s'agit effectivement de dissoudre les associations qui servent de support juridique à des lieux de culte suspects et non les mosquées directement. Alors, parce que les Français sont conscients que ce ne sont pas toutes les mosquées qui offrent le même niveau de risque. Et c'est là que ça devient délicat parce qu'on touche, comme je vous l'ai dit, à la question de liberté. Et dès qu'on touche à la question de sécurité, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Mais si on veut sécuriser davantage les gens, bien, il faut limiter la liberté des autres pour qu'il puisse y avoir une cohésion et on puisse éviter que d'autres attentats puissent survenir sur le territoire français. Mais j'aime bien les nuances parce qu'ils veulent la dissolution d'associations cultuelles qui occupent des lieux de culte radicalisés et qui font l'apologie de la violence. Et c'est ça qu'il faut cerner dans ce débat-là. Ce n'est pas de fermer toutes les mosquées, ce n'est pas de dire que tous les musulmans sont des terroristes, mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter l'activité terroriste. Il faut arrêter, justement, et il faut arrêter ces activités, et non seulement ces activités, mais toutes ces organisations qui complotent en vue d'activités terroristes. Et donc, si des mosquées propagent un discours qui est violent, un discours qui nourrit cette idéologie terroriste, eh bien, c'est clair que l'État doit resserrer l'étau, oui. L'État doit s'en mêler, doit intervenir, et ça, c'est pour la sécurité du plus grand nombre. C'est ça le rôle de l'État. Et vous allez dire, oui, mais toi, d'habitude, t'es un partisan de ce que l'État doit s'ingérer le moins possible dans la vie privée des gens. L'État doit s'ingérer le moins possible dans la liberté d'expression, dans la liberté de religion. Mais là, ici, mesdames et messieurs, il y a un autre droit et une autre valeur qui rentre en ligne de cause, c'est la sécurité. Et c'est pour ça qu'elle doit être faite avec doigté. Et si, par exemple, le ministre Cazeneuve y va selon son plan de match, selon ce qui est rapporté dans le Figaro, eh bien, à ce moment-là, on va faire la part des choses. Et c'est le rôle du gouvernement de faire la part des choses pour le bien du plus grand nombre. La réaction de l'abbé Grosjean, lui, pour sa part, eh bien, on a recueilli ses propos et ils ont été diffusés sur la plateforme du Figaro. Donc, lefigaro.fr/vox/société. Ça a été diffusé hier, donc le 11 novembre 2015. Et le titre de cet article, « L'abbé Grosjean, la guerre devrait aussi être spirituelle ». Alors, qu'est-ce que l'article nous dit? Voici, il rapporte les propos, l'article rapporte les propos de l'abbé Grosjean. La force d'un pays, c'est son âme, ce sont ses racines. C'est en s'appuyant sur son histoire de vieux pays chrétien, mais à l'âme toujours jeune, que la France est solide. C'est bien en se réappropriant son identité, toute son identité, qu'elle pourra affronter cet ennemi. Nos convictions sont notre meilleur rempart. Nous sommes Français. Il va nous falloir retrouver ce que cela veut dire et comment cela peut nous rassembler. C'est bien dans notre histoire, notre culte, nos valeurs, et j'ose l'ajouter, notre foi, ou tout au moins notre héritage spirituel, que nous trouverons cette force d'âme et cette unité dont nous allons avoir besoin dans les temps qui viennent. Et donc, à ce moment-là, l'abbé Grosjean dit essentiellement qu'il faut retourner, il faut que les Français retournent à leur identité et à leurs racines, qui sont judéo-chrétiennes, et les faire valoir et s'unir autour de ces valeurs-là. Évidemment, c'est un discours qui est moins inclusif, et c'est pourquoi, et c'est un discours qui ne passe pas très bien ici au Québec. Hein. Vous le savez, on est très frileux au Québec à ce que les commerçants souhaitent joyeux Noël à leurs clients. On va dire joyeuse fête. Donc, à ce moment-là, on ne parlera plus de la Saint-Jean-Baptiste, mais on va parler de la fête nationale. Et donc, à ce moment-là, et l'argument qu'on dit, mais c'est parce qu'on ne veut pas nuire à la conscience des non-chrétiens, et donc on veut être inclusif, puis être là pour tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, moi, je fais la part des choses entre valoriser notre patrimoine, puisque, par exemple, la France a été bâtie au fil des siècles sur des valeurs judéo-chrétiennes. On a fait la promotion de valeurs judéo-chrétiennes. On a mis en valeur les fêtes judéo-chrétiennes, Noël, Pâques, l'Action de grâce. Et bon, l'Action de grâce n'est pas nécessairement fêtée en France comme ce l'est nous en Amérique du Nord, mais on y fait certains clins d'œil à certains moments. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important que la France, à ce stade-ci, puisse néanmoins, sans se dire une nation chrétienne, mettre en valeur la liberté et mettre en valeur les fêtes chrétiennes et mettre en valeur la croix. J'aime bien qu'on met en valeur également « Pray for Paris ». Ça, ça veut dire « Prier pour Paris ». Et donc, ce qui est important ici, ce n'est pas de faire une guerre entre le christianisme et l'islam. Ici, je crois que la France doit faire attention dans ce tournant-là, mais tout simplement à mettre en valeur les vertus et le patrimoine français. Maintenant, de ce côté-là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas devenir une nation exclusive. Nous et les autres. C'est ça qui est tout le danger et on l'a vu ici au Québec. Et c'est pourquoi, de son côté, le physicien de formation Malik Bézou, qui est un spécialiste de la question de l'islam en France, il va écrire une lettre ouverte qui a été publiée également par Le Figaro et il va dire ceci. « En tant que Français de confession musulmane, j'appelle tous mes concitoyens de culture ou de confession musulmane à manifester de façon ostentatoire leur rejet de la furie djihadiste. » Me faisant sans prétention aucune la continuateur de l'illustre écrivain, j'invite mes frères et sœurs français de confession ou de culture musulmane à rejeter le point de vue consistant à dire qu'il appartient aux Français anciens ou de souche de faire la part des choses en séparant le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Hélas, on peut attendre longtemps, car la peur engourdissant la raison et la prégnance de certains préjugés, réactivés par une actualité décrivant un mode arabo-musulman violent et sanguinaire, sont autant de freins à une évolution plus positive de la perception de l'arabo-islamité dans la société française. Ainsi, n'attendons plus. Le temps presse. Les extrémistes de tous bords sont aux aguets et souhaitent en silence que la peur fasse son œuvre dans l'espoir de jouer leur sinistre partition. Pour l'amour de la France, sa sauvegarde, son salut, ne leur en donnons pas l'occasion. Soyons des bâtisseurs, soyons des patriotes prosélytes, endossons ce rôle, etc. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est temps que, justement, les musulmans qui sont modérés, les musulmans qui ne prennent pas part aux djihadistes, qui ne veulent pas s'associer aux terroristes, eh bien, de se lever et de dire qu'ils veulent contribuer à ce que la France soit un pays de paix, un pays d'harmonie. Et je crois que c'est important. Et comment faire la part des choses entre justement cette diversité culturelle, cette diversité religieuse et de freiner certains élans extrémistes? Eh bien, d'une part, c'est en les dénonçant, mais d'autre part, c'est important que la France, justement, mette en valeur son patrimoine, mette en valeur et fasse référence à son passé, sans devenir un pays chrétien, mais en disant que la France a été bâtie sur des principes judéo-chrétiens, et dans ces principes judéo-chrétiens, il y a un esprit d'ouverture où est-ce que les gens peuvent exprimer leur foi, peuvent vivre librement, et à ce moment-là, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si nous, chrétiens, on dit « oui, oui, mais on n'accepte pas, par exemple, les croyances des musulmans », mais savez-vous quoi? Au bout de la ligne, ces gens-là auront à rendre compte à Dieu, et c'est Dieu qui va juger en fonction de ses préceptes, en fonction de ses lois, en fonction de sa définition de ce que c'est être sauvé, par exemple. Mais dans une société civile, eh bien, on ne peut pas forcer les gens à devenir chrétiens. Et donc, en terminant, je vois que le temps presse. Eh bien, quoi dire à son enfant face aux attentats qui ont eu lieu la semaine dernière? Le Journal de Montréal a publié hier un article intéressant qui nous dit de répondre aux questions de nos enfants, de ne pas taire le sujet, parce que s'ils posent des questions ou s'ils en parlent, par exemple, autour de la table ou dans le salon, etc., eh bien, c'est qu'ils ont une préoccupation et ils sont peut-être pris par une certaine anxiété face à ça. Ils se sentent peut-être insécures. Et donc, il faut répondre aux questions des jeunes sans aller plus loin, sans mettre des mots dans leur bouche ou sans essayer de poursuivre la discussion plus loin que le besoin de l'enfant. Et ce qui est intéressant, vous pourrez le lire dans le Journal de Montréal, ils vont faire des nuances entre les moins de 4 ans, les 5 ans à 14 ans puis les adolescents. Et donc, par exemple, les moins de 4 ans, évidemment, ils ne peuvent pas saisir toutes ces choses-là, mais s'ils sont pris de peur, eh bien, il y a un geste qui est important de faire, c'est de ne pas ouvrir la télé pendant qu'ils sont là, spécialement aux heures de nouvelles, les rassurer, dire que vous êtes là pour les protéger. Et ça, ils vont le comprendre, ça. De 5 à 14 ans, mais pas laisser les nouvelles, si la télé est allumée, justement, pendant les nouvelles, la fermer, et les écouter, et simplement essayer de les faire parler puis aider à faire sortir la peur qui est en eux, puis d'expliquer que le but est surtout de répondre. Le but, c'est de répondre à leurs questions, et puis de ne pas en dire plus, mais de ne pas mentir non plus à l'enfant. Et pour ce qui est d'être avec les adolescents, évidemment, il faut leur parler comme des adultes, sans censurer, mais surveiller leurs réactions. Et essayer d'observer, voir s'ils ont un comportement ou des attitudes qui génèrent de l'anxiété à ce moment-là. Je vous invite à approfondir le tout, c'est vraiment intéressant et ça vaut la peine de consulter cet article-là et de voir qu'est-ce qui s'adresse à vous et à votre réalité. Alors, c'est tout le temps qu'on dispose, donc si vous voulez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, leblogueur@ericlantier.net. C'est l'adresse suivante, leblogueur@ericlantier.net. C'est déjà le temps de clore cette émission. Je vous invite donc à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. C'est Éric Lantier. Je vous dis donc à demain pour un autre tour d'horizon.